France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Joseph Van Damme, mieux connu sous le nom de José Van Damme. Je suis né à Bruxelles au mois d'août 1940. Je suis donc chanteur d'opéra.
Alors quand vous arrivez à Berlin, José Van Damme, c'est pour honorer une promesse en fait, faite à Lorin Maazel quelques années avant.
Oui.
Vous avez fait ce détour qui était prévu par Genève et vous arrivez à Berlin.
Oui.
Vous nous aviez dit que vous avez fait votre service militaire en Allemagne. Donc quand vous arrivez à Berlin, vous parlez l'allemand déjà ?
Je parlais également un peu le néerlandais, le flamand. Bon, à Bruxelles, ma mère était flamande. Limbourgeoise, du Limbourg, de Saint-Tron, du côté de Saint-Tron. Et papa, ma mère et mon père s'entretenaient en flamand, entre eux. Et avec nous, avec ma sœur et avec moi, en français. Donc je comprenais le flamand. Et le flamand et l'allemand sont deux langues germaniques. Donc je comprenais déjà pas mal de choses. À mon service militaire, on n'a pas appris beaucoup. Parce qu'on était entre Belges et on parle toujours le français. Donc, arrivé en Allemagne, qui est une langue, j'aime bien l'allemand, c'est une belle langue. Avec naturellement des petites. Je me souviens que j'ai toujours aimé les montres. Et à l'époque, j'étais là-bas et je voulais dire j'aime les montres, j'aime les belles montres. Alors, c'est Ich liebe die schöne Uhr. Mais moi, je disais « Ich liebe die schöne Hure » avec un H devant. Et « die Hure », c'est en français, passez-moi l'expression, c'est une putain. Alors je disais aux gens que j'aime bien les belles putains. Alors les gens me regardaient assez bizarrement, jusqu'à ce que Madame Hertha Kloust me disait « Tu sais, José, entre « Hure » et « Hure », il y a une différence, celle-là. C'est... » Et le H en allemand est très important, ça je m'en souviens.
Évidemment, elle me congédie. Fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerai la partie. Cependant, je n'ai qu'une envie, et cette envie est de rester. Dans ces conjonctures extrêmes, un abord, pensais-je, avec art, s'introduirait dans le placard.
Qu'est-ce que c'était que cette troupe de l'Opéra de Berlin ? Est-ce que c'était si différent de celle de l'Opéra de Paris que vous aviez connue, ou de celle de l'Opéra de Genève ?
Mais Berlin, c'était un peu spécial à l'époque, parce que Berlin était, le mur de Berlin, c'était donc, on était... en Allemagne de l'Est, à 150 km de l'Ouest. Et de ce fait, Berlin, il y a eu, vous connaissez l'histoire des avions qui ont apporté plus avant de la nourriture, parce que les Russes avaient bloqué un peu. Et Berlin était gâté, je dirais, financièrement. Ils donnaient beaucoup plus d'argent à l'opéra de Berlin qu'aux autres opéras en Allemagne de l'Ouest. Et quand je suis rentré dans cette troupe, vous aviez Marti Talvela, vous aviez Aragal, vous aviez Dietrich Fischer-Dieskau. Enfin, c'était une troupe extraordinaire. Et aussi des gens, ce que en Allemagne, ils vous... Par exemple, mon premier contrat avec Berlin, c'était un contrat d'un an, mais je ne devais être présent que 9 mois. Ce qui faisait qu'ils me payaient 3 mois pour que je puisse aller chanter ailleurs et pour que je puisse apprendre mon métier. Et donc, c'était magnifique comme contrat, et j'ai beaucoup aimé Berlin. C'était...
Est-ce que dans ces troupes, José Van Damme, on apprend, les rôles de façon peut-être un peu concentrique ? C'est-à-dire que, par exemple, on peut commencer par Mazzetto, puis Leporello, puis Don Juan. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui
C'est ce que j'ai fait. Dans certains opéras, j'ai commencé par Mazzetto, Leporello et Don Giovanni. J'ai alterné Leporello, Don Giovanni, etc. Dans Simon Boccanegra, j'ai commencé par Parafiesco, Paolo et puis Simone de Boccanegra. Dans Fonseca, j'ai chanté le rôle du... Ils sont deux ouvriers. Et c'était Lotfi Mansouri qui avait fait la mise en scène et qui m'avait dit, écoute, Fonseca, un jour tu vas chanter Fonseca. Et j'ai chanté Fonseca. Et c'est une bonne approche d'un opéra de chanter des petits rôles. Et puis dans Louise, j'ai chanté un beau petit rôle du chiffonnier. Et puis après, j'ai chanté le père. Hein, c'est toujours bon, mais il faut avoir l'occasion, il faut avoir le temps. D'habitude, on ne reste pas. Entrer dans une troupe, c'est bien. Y rester, c'est moins bien. Il faut essayer de s'échapper de cette cage, je dirais, de qu'est la troupe.
Il y a buccone, il y a buccone, non mi seccar, non ho padrone, non ho padrone, non vorrei star. Se ti mi amico, può andarmi dico, ma che ti ho fatto, e vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, tu anzi ammazzarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, 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 per collar. E io non burlo, 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 ma voglio andare a buffone. Senti, mio amico, ma che sei matto, che sei matto, che sei matto, che sei matto, 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 matto. No, 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 non vorrei star, no. Non vorrei che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, 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 matto. Sì, 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 voglio andare, sì. Si voglia andare a buffone, buffone, non mi seccar, e io sei matto, e io sei matto, ma per burlar, per burlar, per burlar, per burlar.
À Berlin, j'ai eu la chance de rencontrer Hertha Klust, qui était une accompagnatrice à l'opéra, donc un coach à l'opéra de Berlin. Et quand vous voyez les premiers enregistrements de Fischer Dieskau, c'est elle qui l'accompagne. Et cette femme était depuis 35 ans à l'opéra. C'était un monument. Elle était drôle, elle aimait rire. Alors j'allais chez elle, d'abord à l'opéra, puis elle était à la retraite et je continuais d'aller chez elle. Et elle m'a appris Les Noces de Figaro, Don Giovanni, elle m'a appris Péléas, et Così fan tutte, le Fernando. Et j'allais chez elle, elle me disait, qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Je dis Les Noces. Elle se mettait au piano sans partition, tout de mémoire. Tout. Et elle me disait, voilà, à tel endroit, Furtwängler s'était presque disputé avec Rudolf Schock, parce qu'il voulait ça, et Schock ne voulait pas. Et là, Klemperer demandait, c'était une anthologie, cette femme, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et puis il y avait le directeur de musique, c'était Laurine Mazel, qui n'était pas n'importe qui non plus. Et c'est à Berlin, donc en 70... J'ai eu l'occasion d'auditionner pour Herbert von Karajan. Et puis, je me souviens, ça, c'était à la Philharmonie de Berlin. J'étais sur la scène et lui, il était dans la salle avec deux, trois personnes. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous allez chanter? Je dis, les porello. Puis j'ai eu. Et puis, il me dit après, est-ce que vous chantez l'air du Requiem de Verdi? Je dis, oui. Si on me donne la partition, parce que je l'avais chanté, mais... Alors... J'ai chanté, j'ai commencé au milieu de l'air, il m'a dit ça suffit. Je dis, c'est pas bien là. Et puis c'est le monsieur qui est devenu mon impresario après, il m'a appelé le soir, il a dit, c'était parfait, tu chantes avec lui l'année prochaine.
Était le Karajan que vous avez connu?
Karajan était un personnage assez mal connu. Il avait ses exigences. Il était très exigeant vis-à-vis de lui-même aussi. Quand on faisait des opéras, Fidelio, Le Vaisseau Fantôme, Parsifal, C'est lui qui faisait la mise en scène. Il était à 8h du matin jusqu'à 8h du soir, il était au théâtre pour s'occuper de la mise en scène. Quand on avait fait souvent déjà le disque avec lui, les répétitions scéniques, il faisait tourner le disque pour que les chanteurs ne chantent pas, ne se fatiguent pas. Ça, c'était déjà extraordinaire. Et puis, on commençait à chanter quand l'orchestre, qui était l'Orchestre Philharmonique de Berlin, quand ils arrivaient, on était en scène et puis ils nous laissaient chanter.
Ah, vous arriviez dans un écrin déjà préparé.
Ah oui, c'était... Les gens ont dit, mais c'était pas un metteur en scène, ok. Mais ils respectaient la musique, ils faisaient de belles images. Et quand on arrivait, ils vous disaient, vous êtes là. Au bout de 3 fois, on avait compris et puis ça se passait très bien. Karajan, il avait sa famille. J'entends par là les gens avec qui il avait l'habitude de travailler. José Carreras, Placido Domingo, Mirella Freni, Teresa Berganza, Frederica Folstad, moi, Cappuccilli, Giauroff, des gens, ça c'était sa famille. Il aimait bien de travailler avec sa famille. Il aimait moins quelqu'un qu'il ne connaissait pas bien. Ce qui fait qu'il demandait parfois aux membres de sa famille de chanter des rôles qu'il n'aurait pas dû chanter. Mais pour lui faire plaisir, certains l'ont fait. Certains et certaines. Moi, il m'a demandé 2 fois pour des rôles. Il m'a demandé pour Pizarro dans Fidelio. Et je lui ai dit, maître, c'est un rôle, un brûle-rôle, on dit en Florence, un rôle à gueuler, pour ainsi dire. Il m'a dit, vous avez raison. Aussi, dans Lohengrin, il m'a demandé de chanter, je dis non. Il m'a dit, vous avez raison, vous avez une trop belle voix pour ça. Et puis, j'ai continué à travailler avec lui. D'autres ont chanté des rôles qui n'étaient pas exactement faits pour eux. Alors les gens disent, Karajan a cassé les voix. Karajan a demandé, et certaines personnes ont accepté. Et d'autres, il a aussi demandé à Mirella. Mirella, quand on était très amis, m'a dit tel rôle ou tel rôle, j'ai dit non. Et puis, voilà, ça c'était sa famille.
Les grands entretiens de José Vandamme, France Musique.
Il était rigoureux, exigeant, mais quand on a fait Salomé, j'avais chanté Yohanan, et on avait fait la générale mercredi, première vendredi. Et le jeudi, j'étais donc libre, mon fils qui à l'époque avait 14 ans, venait de Berlin, et il a fait Berlin-Munich en avion, et je voulais aller le chercher à Munich. Et la régie du théâtre a dit, le maestro veut tout le monde à 6h. Je dis, zut, mon fils arrive. Non, mais le maestro, comme j'ai vu qu'il avait une répétition et l'orchestre, je lui ai dit, maître, je sais que, mais mon fils, allez chercher votre fils, c'est beaucoup plus important. Voilà, ça c'était le grand chef avec qui j'ai le mieux et le plus de plaisir à chanter. En plus, il vous demandait des choses qui étaient précises et nettes. Et c'était... Je me souviens notamment d'un Requiem de Verdi à Vienne. Et sur la scène, j'étais à côté de Pavarotti, donc j'avais pas beaucoup de place. Et Mirella Freni et Christian Ludwig. C'était des, comme disent les Allemands, Sternstunde. Ce sont des soirées extraordinaires. Ouais. Et souvent aussi, j'ai fait le Requiem de Brahms avec lui.
Ce répertoire sacré, José Van Damme,
vous l'avez... C'est un sacré répertoire.
Oui, c'est un sacré répertoire. Mais je veux dire, c'est assez rare que les chanteurs réussissent à faire à la fois l'opéra, à la fois le lied et la mélodie, et à la fois l'oratorio. Et vous, vous avez fait les trois, parce que Elias, Paulus, la Saint-Jean, la Saint-Mathieu...
Oui, tout ça, j'aimais. Et les concerts, j'aimais beaucoup. Bon, j'aimais la scène, mais le... Peut-être que mon répertoire préféré était l'oratorio avec orchestre. J'ai chanté des choses, notamment Elias de Mendelssohn, les Mahler, les Kindertotenlieder, les Rückertlieder avec orchestre, c'était magnifique. Là, on se consacre plus à la musique. Seiji Ozawa. Là, j'ai une anecdote. J'avais fait une tournée en Amérique et j'étais à l'orchestre de Boston avec Seiji Ozawa, avec qui j'ai beaucoup et beaucoup aimé chanter. Et on avait fait des Rückertlieder de Mahler. Et Seiji était, il bougeait, il était presque collé contre moi et il me regardait et il faisait des signes à l'orchestre. Et enfin, c'était très drôle, mais magnifique. Et je quitte Boston pour faire le même répertoire à Chicago avec M. Boulez.
Différent.
C'était très différent. Mais c'était bien aussi. Hein. J'insiste sur le fait que les deux orchestres, Boston et Chicago, ce sont probablement les deux meilleurs orchestres d'Amérique. Mais comme direction, c'était un peu... C'était différent. Mais c'était bien. Et intéressant.
Vous avez fait d'autres choses avec Pierre Boulez.
J'ai fait à Paris, à l'Opéra de Paris... Il y avait les ballets de Béjart qui étaient venus et ils avaient fait, je crois que c'est la petite renarde intelligente.
Petite renarde rusée.
Où il y a un quatuor de chanteurs. On était dans la force d'orchestre avec Boulez, mais j'avais 23 ans.
José Van Damme, vous nous avez dit donc, que Frédéric Anspach meurt à la fin des années 60. Après, vous n'avez plus de professeur. Enfin, on sent que quand même Herta Klaus a compté comme quand même quelqu'un qui accompagne.
Mais elle n'était pas professeur de chant.
Elle n'était pas professeur de chant.
Elle ne faisait jamais de remarques sur la technique. Non, comme professeur de chant, c'est le seul que j'ai eu.
Et j'ai cru lire que vous aviez, quand vous étiez dans vos années berlinoises, travaillé le souffle et la respiration basse avec quelqu'un.
Oui, c'est-à-dire qu'on chantait la Tosca. Et dans la Tosca, le ténor, c'était un autre ami que j'ai perdu assez vite, Carlo Cossuta, qui était un fort ténor, qui était même, il a chanté Othello. Je crois qu'il a enregistré Othello avec Scholti aussi. On s'était liés d'amitié et on allait jouer quand on avait le temps entre... On allait jouer au billard français, sur le boulevard des Italiens, à deux pas de l'opéra. Et un jour, pendant les spectacles, Carlo Cossuta me dit « J'ai mon professeur qui vient, un professeur de souffle, qui vient de Buenos Aires, le monsieur Volken, si j'ai bonne mémoire. » Il travaillait, en fait, c'était pas un professeur de chant, c'était un professeur de... un monsieur qui travaillait avec les gens qui avaient de l'asthme. Il leur apprenait à respirer comme un chanteur, pour pas... être sur les bronches. Et comme il était là, ce monsieur, j'ai dit, il m'avait entendu, et je lui ai dit, je voudrais travailler un peu pour... Oui, mais vous n'avez pas besoin de ça. Je dis, oui, mais je voudrais voir un peu comment ça fonctionne. Et alors, j'ai eu deux ou trois, quatre leçons avec ce monsieur. J'avais déjà en tête de pouvoir le retransmettre plus tard.
Mondo, sommonza in quest'angelo.
nous avez parlé de ces refus que vous avez faits, par exemple au maestro Karajan, peut-être à d'autres aussi. Vous diriez, José Vandamme, qu'une carrière, elle se construit aussi comme ça, en disant non?
Oui, oui, je dis aux élèves, je dis à mes élèves, on bâtit une carrière plus sur des noms que sur des oui. Et je sais que c'est pas facile, hein. On m'a très souvent demandé pour chanter Wotan. Et notamment, Scholti, quand il a fait le ring à Bayreuth, il m'a demandé pour faire Wotan. Et il m'a demandé ça à l'occasion d'un disque qu'on faisait, on avait enregistré La Femme sans ombre. Et il m'a dit, écoutez, José, je vais faire le ring, je voudrais que vous soyez Wotan. Je dis, je chante pas Wotan. Oui, mais avec moi. Je dis, écoutez, je reprends la partition, je regarde à mon aise, je vous dis dans un mois. Et un mois après, je lui ai dit, non, c'est un rôle que je n'ai pas d'affinité avec Wotan. Il faut se mettre, pour moi, dans la peau du personnage. Et le rôle de Wotan, à part les adieux de Wotan que j'ai chanté en concert, d'ailleurs, je ne suis pas assez fan de Wegener pour supporter souvent le ring. J'ai chanté Amfortas dans Parsifal, Le vaisseau fantôme, et Hans Sachs, qui sont des rôles, pour moi, les maîtres chanteurs, pour moi, c'est le meilleur opéra de Wagner, parce que vous avez de l'humour, notamment, ce qu'on n'a pas tellement dans le ring. Et donc, il m'en a voulu un peu, mais bon, après, ça s'est calmé.
Vous avez aussi dit non, par exemple, plus jeune, à une production où il y avait Elisabeth Schwarzkopf, je crois, par exemple. Je crois que c'est quand même, je me dis qu'il faut être bien sûr de soi, voilà, de dire non. C'est pas
oui,
simple.
Oui, mais ce n'est pas simple. Et c'est être sûr de soi, oui, dans le métier. Hein. Mais je dis souvent aux jeunes deux choses qui sont importantes dans le métier. La première, c'est l'humilité par rapport à la musique et la générosité, voilà. Parce que chanter quand on est sur une scène, c'est un don qu'on fait au public et il faut s'investir complètement. Pour s'investir complètement, il faut être sûr de soi. Sûr de soi, on est quand on travaille. Frédéric Anspach me disait, si tu connais un rôle à 100%, ça n'est pas assez parce que tu perds 30% de tes moyens en scène. Et donc tu dois être à 120, 130% pour être à 90, 100% et là ça marche. Et il avait raison. Et le métier étant ce qu'il est, c'est un métier difficile, le métier de chanteur d'opéra. Et les jeunes ne se rendent pas toujours compte de la difficulté. Je me souviens d'un spectacle à Genève, on donnait le Don Quichotte de Massenet. Moi j'étais Sancho Panza et c'était Nicolas Rossi-Lemeni qui chantait la basse qu'on voit dans beaucoup d'enregistrements avec Callas. Et il faisait le rôle de Don Quichotte. Et entre deux spectacles, il est allé enterrer sa maman à Rome. Et il est revenu le lendemain ou le surlendemain pour le spectacle. Il sanglotait à la mort de Don Quichotte, il sanglotait sur la scène. Mais il était là. Hein. Et on a, moi comme tous les gens, j'ai eu des malheurs dans la famille, j'ai eu un divorce, j'ai eu la mort de ma mère. Bon, il faut y aller. Comment on dit
The show must go on.
Voilà, the show must go on. Il faut avoir cette force de pouvoir dire, voilà, on y va.
Thank you.
La mort de Don Quichotte de Massenet sous la direction de Michel Plasson qui referme ce troisième épisode des Grands Entretiens avec José Vandamme, équipe de production, Marie Groux, Perrine Minguy, Marcos Darras, Olivier Dupré et Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure, les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.